Vous écoutez l'Archipel des Portraits, une émission d'interview et de mini-conférence en Creative Commons, conçue et réalisée par Jean-Luc Ancet. Bonjour David Latapi.
Bonjour Jean-Luc Ancet.
David Latapi qui nous accorde cette interview est, disons pour faire simple, un informaticien de 35 ans que j'ai rencontré comme beaucoup d'autres aux réunions de Zebras Crossing, c'est-à-dire des dîners où des gens qui se considèrent zèbres, ou on peut aussi dire surdoués quand on n'a pas peur des termes politiquement incorrects, ces gens se rencontrent et papotent des sujets les plus divers. Et en l'occurrence, nous allons essayer de cerner quelques aspects de la personnalité de David. Conformément aux habitudes de cette émission, notre entretien sera divisé en trois sections, entrecoupées de demi-temps du jeu Triancé Archipel. Première section, les richesses. Les richesses dont David Latapi a choisi de nous parler maintenant sont bien entendu des richesses intellectuelles, puisqu'il va nous parler de son intérêt pour les livres.
Comme beaucoup de gens qui sont plutôt des intellectuels, j'ai une passion pour les livres. Moins maintenant, depuis que j'ai découvert Internet, je passe plus de temps à lire sur Internet que à lire sur du papier, mais je continue à lire. Je dirais même que j'y lis plus encore maintenant qu'avant, puisque avant je dévorais les livres tous les mois, maintenant je dévore des pages entières tous les jours.
Ne parlons pas dans l'abstrait, les livres qui ont commencé à compter pour toi, c'était des romans, c'était des essais, c'était des grimoires techniques.
Je dirais que les premiers livres qui ont compté pour moi, c'était des romans de science-fiction. Puis c'était des articles de science dans les magazines et de nouveau des romans de science-fiction. J'ai toujours été dans la fuite en avant, je le remercie maintenant, pour des raisons liées à mon entourage familial, j'avais besoin de m'évader et de découvrir du rêve, de découvrir de l'ailleurs, découvrir du ici, du potentiel.
Est-ce que tu peux nous citer des titres?
Je vais vous en citer un. Mon livre préféré, c'est Des fleurs pour Algernon. Ou Algernon, je ne sais jamais comment on dit ça. Des fleurs pour Algernon est un roman de Daniel Keith, qui est un auteur qui n'est connu que pour ça, parce qu'il a fait deux livres en tout dans sa vie. Et l'un d'eux fut Des fleurs pour Algernon. Est un roman qui m'a littéralement transporté. C'est rédigé sous la forme d'une autobiographie, en fait d'un journal intime, tenu par un simple d'esprit qui est le sujet d'une expérience scientifique. Cette expérience scientifique a d'abord été tentée sur une souris qui s'appelle Algernon, et après a été passée sur une main. Donc ce héros, Charlie, qui est un jardinier qui est déficient mental, prend ses cachets ou les pilules, je ne sais plus, pour un sérum qui doit augmenter son intelligence.
Et puis, il a quel âge?
Là, je ne me souviens plus, il doit avoir la vingtaine.
Ça se situe dans quel contexte?
Il n'y a aucun contexte. On s'imagine que c'est aux États-Unis, mais on ne sait pas quand. C'est moderne, quoi. J'imagine que c'est dans les années 50, puis il y a des laboratoires, des seringues, des voitures. Voilà. Mais finalement, ça pourrait être à peu près n'importe quand. Quand même 20e siècle, puisqu'il y a quand même un certain background scientifique derrière. Le livre datant des années 60, de mémoire, ça se situe donc dans les contemporains des années 60. Et ce jeune homme, dans déficient mental, donc écrit très mal, il sait à peine écrire, et ça se voit, et c'est ça qui est très très fort, c'est que l'écriture reflète la mentalité du héros. Il fait des phrases mal écrites au niveau de la syntaxe, avec une grammaire épouvantable, on a du mal des fois, c'est presque du SMS, j'ai envie de dire, on a du mal à comprendre ce qu'il écrit. Et peu à peu, on le voit progresser à son niveau d'intelligence, il comprend certaines choses, il repère certaines tentations, il voit ce qu'on lui fait, et son écriture reflète sa montée en intelligence.
Le style s'améliore au fil de page.
Le style s'améliore énormément. Il devient de plus en plus intelligent. D'abord, il écrit ses notes une fois de temps en temps, au stylo. Bon. Puis, moi, ça va trop vite. Il a trop de choses à dire, donc il commence à passer à la machine à écrire. Puis même la machine à écrire, ça ne va pas assez vite pour son intelligence, donc il est obligé de passer au dictaphone avec quelqu'un derrière qui retranscrit ses notes. Et on voit toute la profondeur de son style s'améliore évidemment à la fin, c'est fabuleux. et on voit cette métamorphose d'un enfant qui comprenait rien, qui était très heureux. Il était très heureux, il comprenait pas la marche des gens, mais le genre était gentil, il souriait de temps en temps, c'est tout ce qu'il demandait. Puis il devient de plus en plus intelligent, il comprend de plus en plus ce qui se passe, il se rend compte que les gens qu'il adorait, les étudiants qui parlaient de choses compliquées, en fait, c'était pas très futé, en gros, ils parlaient de choses pas intéressantes du tout, et que finalement, il s'était fait des idées sur eux. Il découvre le monde, il découvre l'amour, il tombe amoureux de son expérimentatrice, amour qui est réciproque, ils finissent par sortir ensemble. Mais l'intelligence marche trop bien. Il devient vraiment trop intelligent. Au bout d'un moment, plus personne n'arrive à le comprendre. Il devient tellement intelligent, il comprend tout de suite, il sait exactement ce qui se passe. Et même sa compagne dit, mais j'arrive plus à te suivre, je te comprends plus, je sais pas, tu es ailleurs, tu as dépassé. Au bout d'un moment, plus personne n'arrive à le comprendre. Et lui-même, il peut plus avoir, il y a trop de distance pour qu'il y ait encore des sentiments. Et il en souffre.
C'est tout à fait une problématique de surdoué. Je ne l'avais pas demandé.
Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que ce livre a été... Je ne savais pas à l'époque que j'étais surdoué, mais je ressentais déjà ça. Pas autant. Surtout qu'à l'époque, je me considérais comme moyen, comme la majorité, et que j'étais à milieu de ça. Mais il y avait ce sentiment. Il y a toujours le sentiment de ne pas être à sa place. Et on le sent. Peu à peu, il sent bien qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'arrive pas à comprendre les gens, qu'il est devenu un extraterrestre.
Et donc tu t'es identifié à ce personnage qui devient trop intelligent. On s'y identifie dès le début.
C'est graduel parce que un personnage comme ça, un handicapé mental. Alors le fait qu'il y ait justement ce calque entre son évolution intellectuelle et sa graphie fait énormément. Ça apporte énormément, ça donne vraiment un aspect de personnalisation qui est énorme. Le texte aurait été écrit toujours de la même manière ou été écrit par quelqu'un d'autre. Il n'y aurait pas eu cette symétrie entre la pensée et la graphie, j'aurais pas eu cette identification. Je l'ai juste aimé, j'ai jamais trop su pourquoi je l'aimais. Je crois que je l'ai aimé parce que pour la tragédie qu'il y avait derrière. La tragédie de l'incompréhension, je considérais comme très belle, je considérais comme en dessous de la moyenne au début.
Tu avais quel âge?
J'avais 10-13 ans, je ne sais plus trop. Et surtout, je sentais bien cette distanciation, cette incompréhension par rapport aux autres. Mais surtout, ce qui m'a le plus marqué là-dedans, c'est qu'on touchait à ce qui, pour moi, déjà à l'époque, était la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir, c'est son intelligence. Pour moi, c'est plus important que l'argent, que l'amour, c'est l'intelligence, c'est la capacité de voir le monde. Le livre se termine de très 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 mal, puisqu'en fait, on retrouve Algernon qui bouge différemment, elle n'a plus la vivacité qu'elle avait, parce qu'effectivement, on avait vu la même intelligence dans la souris, et peu à peu cette souris perd cet éclat de brillance qu'elle avait, redevient une souris normale, puis moins qu'une souris normale. Et on sait, il est pas bête, il a très bien compris ce qui est arrivé. Et là, et c'est ça le plus dur, c'est la descente aux enfers d'un homme suprêmement intelligent qui sait exactement ce qui va lui arriver, toute la déchéance. Et je compare ça maintenant à un homme qui est en pleine possession de ses moyens, qui est dans son troisième âge, qui est actif, et qui voit Alzheimer qui lui arrive dessus. Et ça, c'est pire. Quand t'as Alzheimer, ça gêne les autres, mais toi, ça te gêne plus. C'est quand tu sais que ça t'arrive, et quand tu es spectateur de ta propre déchéance, spectateur conscient de ta propre déchéance, ça, c'est le pire. Et là, je pense qu'une personne qui dit, si j'en arrive là, je veux que vous me tuiez, dire la plus grande humanité, c'est de le faire. Le légal, maintenant, l'autorise pas, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Des fleurs pour Algernon, c'est une des dernières phrases qu'il dit, envoyez des fleurs pour Algernon, mettez des fleurs sur la tombe d'Algernon. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est formidable. Je ne suis pas le seul à penser que c'est un livre qui est formidable. On dit d'ailleurs que Daniel Keyes n'a jamais écrit que deux livres dans sa vie, mais l'un d'eux était des fleurs pour Algernon, et ça suffit. C'est un chef-d'œuvre.
Eh bien, merci beaucoup. Nous en restons là pour la première section consacrée aux richesses et nous enchaînons à présent sur la première pause ludique de cette émission qui va nous changer complètement de contexte. David Latapie et moi-même allons nous affronter sans aucune brutalité au jeu de Triancé Archipel. Sur la grille de Juliette qui comporte 58 cases, c'est-à-dire relativement peu. Signalons que cette grille et les principales situations de jeu sont visibles dans le diaporama qui accompagne cet enregistrement. David joue avec les jaunes, c'est-à-dire qu'il a l'initiative. Il s'appuie sur 5 pions d'appui, le long des cases 1, 2, 4, 5 et 8. Et pour ma part, je joue de l'autre côté. Donc mes pions rouges d'appui sont le long des cases 52, 53, 54, 55 et 57. C'est le début de la phase archipel où nous allons devoir placer en alternance 5 pions jaunes et 5 rouges de façon qu'ils ne soient ni voisins par leur côté, ni en situation de déclencher une réaction en chaîne. Et à toi l'honneur, David.
Alors, je vais placer un premier pion sur le triangle 32.
Et je vais jouer offensivement en 18.
Voilà, très offensif, effectivement. Moi, du coup, je vais derrière le faire en 30.
Coup refusé, réaction en chaîne sur la case 31.
Ah oui, effectivement, effectivement. Donc en 29.
Je pose mon deuxième pion rouge en 33.
Et le mien offensif aussi en 38. Ah non, c'est pas possible.
Il y aurait une réaction en chaîne qui mangerait la 37.
Attends, c'est vrai que c'est vite délicat là-dessus. Ah oui. Eh bien, le 40.
La 40. La case 40 est un petit peu plus petite que le pion, donc on le fait un peu déborder. Et je pose mon troisième pion rouge en 42.
Bien, quant à moi, c'est délicat, hein, c'est délicat tout ça. Allez, en 43. Oh, je joue dangereusement là.
C'est un jeu offensif, on a tout à fait le droit. Et tu me forces à jouer un coup un peu défensif, je me pose mon quatrième pion rouge sur la case 51.
Et quant à moi, le dernier, je le poserai en 11.
Donc, dernier pion dans l'archipel. Allez, vivons dangereusement. Je joue le cinquième pion rouge, dernier dans l'archipel, sur la case 20.
Allez.
Nous en sommes donc à 5 pions jaunes et 5 pions rouges, et l'archipel est constitué. À partir de maintenant, nous allons nous en donner à cœur joie pour déclencher les réactions en chaîne. Je rappelle aux auditeurs le principe extrêmement simple sur lequel repose ce jeu. Toute case, vide ou pleine, qui touche par ses côtés, par ses pointes, deux pions de la même couleur, doit immédiatement recevoir un pion de cette couleur. Et c'est à toi, David.
Alors, je pose un pion à 39. Réaction en chaîne sur le 38, qui entraîne une réaction en chaîne sur le 37.
Fait.
Et voilà.
Et c'est déjà pas mal. Alors, la meilleure défense étant l'attaque. Mon pion en 42 est attaqué, mais je préfère ne pas le défendre, mais attaquer de l'autre côté. Je joue en 19, ce qui prend la 12, la 13, la 26 et la 27.
Très bon coup. On voit celui qui a l'habitude, hein? Eh bien.
T'as moins l'habitude que moi. Ça tu fais bien. Comme tu veux, mais moi je te conseillerais de prendre ce pion rouge.
Mais moi c'est à celui que je pensais.
Sur la 42.
Hein? Moi je pensais à...
L'autre possibilité est de défendre l'un de tes deux pions qui est attaqué.
Non, j'essaie de voir tout ce qu'il y avait, effectivement. J'avais pensé à celui-là, mais il y avait un pion que j'avais oublié que je pouvais prendre le pion. J'avais vu le reste. Donc je comptais le mettre en 36. Comme ça, déjà d'une part,
j'ai tu joues 36. Voilà. 36 qui prend 30.
Tu prends un 31. Et tu viens de me faire remarquer que effectivement je prenais également le 42, que je n'avais pas vu. Voilà.
Fort bien. Je vais continuer d'être offensif. C'est peut-être un peu présomptueux. Je joue en 3, qui retourne le pion jaune de la 11 et prend aussi la case 17.
Alors, voyons.
Je m'aperçois que nous avons oublié, et la faute en étant aux deux joueurs, ça ne pénalisera personne, la case 34 est encadrée entre la 29 et la 40, donc elle est prise par un pion jaune, et donc la 35 également.
Ah, ben écoute, pourquoi pas, hein, je ne l'avais même pas vu, donc merci. Mais j'ai du mal toujours avec les bordures. Elles sont pas. Je suis quand même assez visuel, là du coup, ça a du mal à passer chez moi. Non, là je peux pas voir. Je ne peux pas voir le 51 d'un coup. Je pourrais avoir celui-là. Si je pose sur le 28, j'en prends un. Mais c'est tout.
Le 25, non, le 28 prendrait le 23. Oui, mais il retournerait aussi le 33.
Il prendrait le 23 sur le 23. Ah oui, ah, ben, toujours pareil. Hein. Toujours c'est pareil, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal à voir celle-là. Celle-là, ça avance rien. Non, derrière, je suis trop ancré. Oui, non, c'est mieux. Donc, effectivement, ce que je fais faire, le 28 qui prend le 33 puisqu'il était entre les deux. Et le 23 par réaction en chaîne puisqu'il est encadré.
Et qui prend aussi le 27.
Le 27, effectivement.
Eh bien, je savais bien que j'avais été trop présomptueux.
C'est vrai que là, ça commence à bien s'annoncer pour moi.
Bon.
Je ne sais pas quelle est la part de chance dans le jeu.
Je crois que je n'ai pas le choix. Je joue 5 qui prend 4 et 6.
Alors, voyons, on regarde la suite. Donc là, c'est plus, il n'y en a plus qu'un, donc on s'en fiche un petit peu. Le 22 me donnerait le 21, et c'est tout. En même temps, oui, effectivement.
Le 22, c'est le 21 qui te donnerait le 22, pas le contraire.
Oui, c'est vrai que les formes circulaires sont difficiles à attaquer. Je me rends compte. Parce que justement, elle n'offre pas d'aspérité. Et c'est par les aspérités qu'on arrive à attaquer.
Tout à fait.
Ce qui est vrai dans toute science militaire, d'ailleurs. Comme quoi, on arrive toujours aux mêmes choses. Le 24 me donnerait le 25 et c'est tout. Je me déclencherai une ouverture là-dessus. Le 15, c'est mieux parce que ça me donne le 24 qui me donne le 25. En revanche,
Le 22 de l'autre côté.
Toujours pareil, j'ai beaucoup de mal. Ça me paraît pas mal du tout, hein, soir. Ça me paraît pas mal du tout.
Le c'est pas mal, en effet.
D'éliminer, mais temps de prendre des points.
Donc tu joues le 15, il prend 24,
qui prend le 25, et le 22.
Bon, eh bien, je vais assurer la survie de mes pièces avancées. Je joue le 14. Qui prend le 7 et par ailleurs le 21.
Très bien. Alors maintenant, par contre, je pense de pouvoir faire quelque chose. Là, j'ai le 22 et le 15, mais ils sont pas en lien avec lui parce que c'est juste une pointe. Donc, je n'ai pas d'accès finalement. Là, j'ai le 9, mais non, en fait, ça non plus, j'ai pas d'accès. Non plus, j'ai pas d'accès. Si je me mets là, je peux en récupérer un.
Là, tu veux dire la 10, la 10 prendrait la 16, la 2, la 1.
La 10 prendrait la 16, je suis d'accord. Par contre, la 2, oui, effectivement, la 2 et la 1 également.
À cause des pions d'appui.
Effectivement. En même temps, je joue pas tout seul, je joue avec mon adversaire qui m'aide.
Donc tu as joué la 10 qui prend la 16.
Voilà, et par réaction.
Et de l'autre côté,
il y a la 2 puisqu'il y a un support qui m'aide. Et le même support m'aide pour la. Enfin, un autre support m'aide pour la 1 que je prends également. Et là, par contre, voilà, c'est bon.
C'est tout en effet. Et je ne pourrais plus faire mieux de ce côté-là qu'en faisant ce que je fais. Je joue le 9 qui prend le 8.
Voilà, et donc maintenant il reste encore des pions à utiliser. Alors on s'arrête quand la carte est.
Quand c'est entièrement rempli.
D'accord. Alors, si je prends le 55, tu peux encore rattraper le coup. Donc il ne faut que, pas que je me repense sur mes lauriers. En 55, toi tu prendrais un 50. Non.
Si tu joues à 55, tu prendrais la 50.
Ouais, mais j'essaie de voir si je veux prendre autre chose. Si je prends la 45, je prends la 44, et c'est tout.
Et la 41 aussi.
Ah ouais, toujours pareil. Oui. Ah, elle n'a pas rentré. Hein. Sur la 46, je peux prendre la 41, et je prends la 45, c'est encore mieux la 46.
Absolument, c'est très bien.
Je prends donc la 46, qui paraît réaction en chaîne, me donne la 41, qui me donne la 45, toujours en réaction en chaîne, laquelle me donne la 44. Ah. Et voilà. Eh bien, c'est à toi.
Eh bien, mon pion 51 étant vulnérable, je pense que le plus sage est de le défendre. Donc, je joue 58, qui prend 57, qui prend 56, qui prend 55, et de l'autre côté, la case 52 devient rouge elle aussi.
Très joli coup, très joli coup. 53, non, même pas. Si la 53 me donnerait la 47, qui me donnerait la 48, ça c'est déjà 2. Si je mets en 49, ça me donne la 50 et la 48, qui me donne encore mieux. Donc je pose sur la 49, qui me donne la 50, la 48 et la 47.
Et là, c'est le métier qui rentre et les deux dernières cases sont pour moi. C'est-à-dire, je joue sur la 54 qui prend la 53. Et ça s'arrête ici. Il n'y a plus qu'à compter. Eh bien, c'est une victoire jaune de 8 pions, ce qui est très, très, très honnête. Toutes mes félicitations. Cette première mi-temps s'achève donc par la victoire de David Latapie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pions d'avance. Bravo.
Merci.
Deuxième section, les personnes. David m'a donné l'autorisation de lancer la partie sur les personnes en disant qu'il allait évoquer le souvenir de son ex. Je ne l'y ai pas obligé, c'est lui qui a choisi.
Mais il n'y aura aucun détail croustillant. Il y aura juste des bons souvenirs d'une personne avec qui je suis toujours ami d'abord. Voilà, ça n'a pas été la rupture violente que d'autres personnes peuvent avoir et que j'ai eu à d'autres occasions également. C'est la première personne que j'ai rencontrée qui soit surdouée. Elle ne le savait pas qu'elle était. Je ne le savais pas non plus, puisqu'on ne connaissait pas les termes. En fait, on sentait juste qu'on n'était pas à notre place.
Et tu t'en es rendu compte comment ?
Je m'en suis rendu compte par internet en creusant sur ce que c'était vraiment. En fait, alors attendez, que je remonte parce que c'est assez. J'adore faire des remontées comme ça, remonter les pistes. Ça s'est passé comment ?
En tout état de cause, tu ne l'as pas choisi sur ce critère.
Non, on n'en a pas du tout. De toute façon, moi, je ne peux jamais draguer une fille que d'en discuter avec elle. Il y a des gens, normalement, la drague, ça se fait. Il y a des techniques. J'ai étudié un petit peu le jeu de la séduction. C'est toute une science assez rigoureuse avec des conseils. Bon, moi, j'arrive pas, hein, c'est pas mon truc, mais je sais comment ça fonctionne en théorie. On s'est rencontrés sur un tout autre sujet qui n'avait rien à voir. Je montais à Paris pour voir une autre personne, j'avais besoin d'un endroit où pioter, j'avais pas envie de payer la chambre d'hôtel. Comme j'étais propriétaire d'une mailing list, donc une liste de discussion, écoutez, je monte sur Paris, est-ce que quelqu'un peut m'héberger ? Une personne a dit, écoute, moi actuellement je suis hébergé chez Machine, et Machine veut bien que je m'héberge aussi. Comme ça, donc, une habituée de la mailing list m'a proposé d'aller dormir chez là où elle était hébergée, donc, et que la propriétaire a dit ok d'accord, et finalement c'est comme ça que je me suis mis avec la propriétaire. Et donc nous sommes restés ensemble plusieurs années, je suis parti à l'étranger entre temps. Ensuite, bon, je ne veux pas trop rentrer en détail parce que c'est intime et c'est bon, voilà, c'est, je ne peux pas trop en parler en fait. C'est, voilà. Cette personne, elle se sentait mal, mal dans sa peau, pas en phase avec les autres. Et c'est, moi aussi, je ressentais ça, mais je ne voulais pas encore me l'avouer. Je voyais plus ça sur le point de vue de ne pas être accepté par les autres. Des visions différentes venant du fait que ben, moi, je suis quelqu'un plutôt extraverti, elle était plutôt introverti, donc l'un explique l'autre. Et même si nous ne sommes plus ensemble, nous continuons à nous voir de temps en temps, régulièrement. Et récemment, elle m'a dit quelque chose de très très important. Elle m'a dit, il n'y a qu'avec toi que j'arrive vraiment à discuter de choses intéressantes. Et en fait, autant on dit les surdoués ont du mal à discuter avec des gens normaux parce qu'ils ne sont pas sur le même niveau, quoi, tout simplement. C'est pas méchant, c'est qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Mais apparemment, les très surdoués, donc les THQI, ont le même problème de divorce cognitif avec les surdoués. Et du coup, tu as des excuses.
Seul, oui.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, moi, et ça me fait très plaisir de m'entendre dire, avec toi, j'arrive. Enfin, j'ai ma vanité, j'ai mon ego, et quand on me dit, grâce à toi, je me sens bien, là, ça fait plaisir. Et je sais que c'est totalement pensé, hein, c'est pas du tout de la flatterie, je le sais. Et comme on parle de l'intelligence, c'est que l'intelligence est quelque chose qui est fondamental dans mon système de valeurs, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Forcément, et ça, on était déjà plus ensemble, donc c'était vraiment quelque chose qui venait de soi, puisque dire quand on casse avec son ex et qu'on continue à se voir, c'est quand même qu'il y a quelque chose derrière, forcément. On évite quand même. Bon. Donc oui, cette personne qui est une personne, vraiment, je suis une personne qui a grandi sa modèle familial, pour plusieurs raisons, notamment le fait d'avoir grandi sans père. Une famille où quand un garçon grandit sans père, il a tendance à avoir une très faible confiance dans lui. J'ai constaté. Et moi, effectivement, j'ai grandi sans présence paternelle, pas père biologique, mais sans présence paternelle du tout. J'ai eu assez mauvaise confiance en moi, qui commence un peu à remonter, mais il faut qu'on me le dise souvent. Et cette personne que j'estimais beaucoup, parce que quelque part, j'avais un peu rédigé un modèle, un peu parce que c'était une fille, j'avais besoin d'un modèle masculin, donc ça ne marchait pas tout à fait, mais savoir que cette personne que j'ai rédigé un modèle m'admirait, m'a énormément... Finalement, je vaux quelque chose, si même elle que j'admire, si celle que j'admire m'admire, c'est quand même que waouh, que je vaux quelque chose. Et ça a été très très fort. Le fait que mon ex, que j'admirais, m'admire pour ce que je suis, m'a donné bien sûr davantage confiance en moi. Ça n'a pas suffi, j'étais toujours pas très bien. Je me disais, oui, mais c'est une personne bizarre, donc si une personne bizarre apprécie notre bizarre, une personne bizarre, ça ne veut pas dire grand chose. J'ai besoin, tu parles d'une validation de la part de quelqu'un qui n'était pas bizarre. Et j'avais également, je le suis après coup, hein, j'avais besoin de la validation d'un homme. Tout simplement parce que j'avais ce deuil d'un père que je n'avais jamais vu, qui me restait toujours. Donc, c'était l'année dernière, j'ai travaillé pendant un an dans une association, l'agence du don de nature, qui récupère les produits neufs qui vont être jetés à la benne pour les donner à des associations d'aide contre la suicide. Donc, c'est un superbe projet, franchement, et ça marche très bien. Et le président de cette association est quelqu'un de formidable, qui est très carré, impatient, il faut être efficace, il faut impacter toujours. Bref, c'est pas forcément quelqu'un qui semble briller pour ses qualités humaines, parce qu'il est très efficace, mais pas pour ses qualités humaines, mais, et je ne sais pas trop pourquoi, c'est la personne que j'ai pris pour modèle, je m'en suis rendu compte petit à petit, parce que il faisait des choses, ça marche, quand il les faisait, ça marchait, il ne tergiversait pas, il agissait, c'était le père que je voulais avoir. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, hein. J'étais très très mal d'ailleurs, mais une collègue m'a dit, écoute, toi, on voit bien que ça ne va pas, va voir un psy. C'était quelqu'un qui ne marchait pas, c'est moi, elle disait directement. Et heureusement d'ailleurs qu'elle disait directement, ça faisait mal au début quand tu te l'entends dire, mais finalement elle avait tout à fait raison. J'ai fini par aller voir un psy, et preuve à quel point ça c'était ça, en quelques séances, alors que le psy ça peut durer des années, hein, en quelques séances, la psy m'a dit exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Je me suis mis à pleurer dans le cabinet de la psy, je vous assure, c'était pas les conneries, j'ai vraiment pleuré, et ça allait tellement mieux après, parce que tous les verrous que j'avais avaient sauté. Enfin, il m'en reste encore quelques-uns, mais c'est rien par rapport à ce que ça fait.
Et cette figure paternelle dont tu parles, elle voyait ça comment?
Je ne sais pas du tout. Elle ne s'en doutait même pas, ça ne la concerne pas, elle a autre chose à faire. Elle est dans l'efficacité, elle a de l'argent à faire rentrer, elle a des pauvres à sortir de la gadoue, elle veut que le monde change. Et bon, mais écoute, si toi tu vas mieux, ben c'est très bien. Mais c'est ça qui est formidable. C'est qu'il n'est pas du tout. Alors, cette personne est à la fois profondément humaine, parce que je veux dire, pour dépenser toute l'énergie, je veux dire, même l'argent, pour ce qu'il fait, il faut vraiment vouloir agir sur lui-même, mais. L'individu, non, c'est pas son truc. Mais voilà, donc c'est quelqu'un que j'admire et à la fois je ne comprends pas comment je peux l'admirer. Il est formidable.
On dit son nom.
C'est Jacques-Étienne de Tserclas, président de l'agence du don en nature, association d'intérêt général, qui travaille avec des grandes entreprises pour faire en sorte que les personnes qui n'ont pas eu sa chance puissent en sortir mieux comme ça. Il n'a peut-être pas envie d'être mis en avant. Il y a deux ou trois reprises, je lui ai fait remarquer que je lui devais beaucoup. C'est un affichement. Voilà, donc c'est ça. Mais bon, cette personne est formidable. Voilà, c'est... Voilà. Bref.
Bon, je te propose d'en rester là sur la deuxième partie consacrée aux personnes. Mm-hmm. Donc ainsi s'achève cette deuxième section consacrée aux personnes et nous enchaînons sans transition sur la seconde pause ludique de cette émission. Pour cette seconde mi-temps de Triancé Archipel, nous restons sur la grille Juliette, qui comporte donc toujours 58 cases, mais les camps sont maintenant inversés. Cette fois, David Latapie joue avec les rouges, c'est-à-dire un peu plus sur la défensive. En plus, comme il m'a assez largement battu dans la première mi-temps, je vais essayer de sauver mon honneur. David s'appuie sur 5 pions rouges le long des cases 52, 53, 54, 55 et 57, et moi je m'appuie sur 5 pions jaunes le long des cases 1, 2, 4, 5 et 8. Et nous entamons la constitution de l'archipel. Je joue mon premier coup dans l'archipel sur la case 37.
Et moi qui voulais jouer sur la case 32, me voilà Grosjean comme devant. Ce sera donc la 18.
Oh, un jeu offensif. Je joue sur la case 29.
C'est toi le premier. Et bien sur la 36.
Ok. T'as pris de l'assurance.
Oh, ça va sûrement me dégommer. Ça va sûrement me dégommer.
45.
39.
Ah bah non,
39. Ah non, mais
la voisine.
Je ne peux pas, tout à fait. Eh bien, ma foi, il ne me restait plus que la 43 maintenant. Non, il me restait également la 31.
Non, il y aurait eu une réaction chaîne sur les 30 et 25.
Oui, effectivement.
43 donc. Et donc, nous sommes à 4 contre 4. Mon dernier pion dans l'archipel. Je vais le placer en 15.
J'ai mis un 48.
Vous refusez, réaction en chaîne sur la case 42.
Ah bon? Ah bah oui, effectivement, oui, tout à fait. Et bien du coup, la 41.
Refuser.
Ah ben non, t'es-je là je peux pas non plus. Ben 47 alors.
Ah, coup refusé, réaction chaîne sur les 53 et les 54.
Voilà, attends. Alors, là c'est pas possible, là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Là c'est pas, là tu es pas. Là. Bref, tout n'est pas possible. Là c'est pas possible. Là.
Je crois que tu vas être forcé de jouer offensif.
Très offensif, même, je crois. Très offensif. 21, hein. Ma foi.
21. Donc, nous en sommes à 5 pions jaunes et 5 pions rouges.
Allez,
et l'archipel est donc constitué. Nous entrons dans la phase des réactions en chaîne. Et c'est à moi de déclencher les hostilités, ce que je fais en plaçant un pion sur la case 31. Je prends donc la 30, la 32 et la 27.
Eh bien, je vois que tu as décidé de gagner cette partie. Alors, voyons, là-dessus. Ah, c'est délicat, hein? C'est délicat à chaque fois. Tu vas pas me dire que j'arrive pas à en prendre plus d'un seul quand même. Ce serait quand même malheureux. Alors c'est là, j'aurai le 19. Là j'aurai la 25, mais à chaque fois ça ne me perd pas davantage. Ça me donne bien fait, je commence à fatiguer un petit peu, je dois dire.
C'est ma chance.
Alors, le 13, j'ai un doigt sur la 20, j'en fais qu'une. Écoute, je vois pas trop ce que je peux faire derrière, sachant qu'il vaut mieux ne pas les faire ici. C'est très attaqué par ici, plutôt voir autrement les choses. Si je prends le 10, non, je peux pas, là, je passe, bon, ça fait 42. Je ne perds pas énormément. Écoute, je sais pas. Franchement, c'est là, mais j'en fais comme.
Donc tu joues la 24.
24, donc je prends la 25 en réaction à la chaîne et c'est tout.
En effet, c'est tout.
Ouais, là je vois pas, j'arrive pas à trouver. Il me manque quelques pions. Enfin, dans le sens du terme, il me manque quelques pions pour comprendre la stratégie du système. On les trouve la première fois,
j'ai trouvé. Je pense que ça va faire mal. Je joue en 28. Donc je retourne la 33. Mmh. Par réaction chaîne, je prends la 23, qui retourne la 24, qui retourne la 25. Mmh. C'est pas si mal.
C'est même plutôt bien, surtout que moi derrière, tout ce que je peux faire.
Ah, et la 22 m'appartient aussi. On a mis un coup au moral.
Non, c'est pour ça, c'est que vraiment j'essaie de comprendre comment ça se marche. Parce que c'est pour moi c'est encore trop aléatoire quand je prends mes décisions. Et je ne comprends pas pourquoi je les prends en fait. Tu vois, j'essaie de comprendre les schémas sous-jacents. 12. J'en ai 19. Ben écoute, je. Attends. Ah bah si, j'ai assez. Attends. Pam. Ah ben non. Je pensais prendre la 37 en posant un pion sur la 48, mais il n'y a pas réaction à chaîne derrière. Là non plus. Ah, c'est pas évident. Écoute, je vais jouer défensif, mais donc 42. Non, ben non, même pas. Même pas. Ben, je peux pas là. Je peux rien faire en fait à ce niveau-là. Là non plus. Et là, je peux le prendre. Ben non. Je peux pas. Elle est totalement indépendante. Où c'est que je peux attaquer? Je prends ce nom. Et en 51.
La 51 qui prend la 44.
Voilà, je prends la 44 et c'est tout.
Bon. va avoir un coup assez jouissif. Je joue sur la 35. La 35 retourne à la 36. Elle prend la 34. Qui prend la 40. Qui prend la 39.
Aïe, aïe, aïe.
Qui prend la 38. Par ailleurs, la 42 est à moi. Et la 41 aussi. Et la 41 aussi. Ah, c'est pas trop mal, oui.
Mais pas trop mal, ça. À Mortal Kombat, on parlerait de Mega Head Combo. Ok, bon. Et ben voilà, ça c'est fait. Hein. Je sais pas, là j'ai clairement perdu. Mais je vais quand même essayer de comprendre ce que je fais. Si je mets sur la 12, je prends la 19. Et encore une fois, je n'irai pas beaucoup plus loin. Je sais pas ce que j'ai mal fait. Comment j'ai mal travaillé là-dessus. Pour pas arriver à faire quoi que ce soit. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Donc je mets sur la 13, donc je prends la 20. Et puis voilà. Voilà, regardez. Je sais pas. Tu es percuté.
La 17, qui prend la 16, et qui retourne la 18. Et prend la 19.
Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. La 11 qui prend la 12, qui retourne la 12, plutôt, et qui s'arrête là.
Non, elle la retourne pas, elle la prend.
Oui, elle la prend.
Coup imprudent, je crois.
Là, pour j'en suis. Hein.
Le 3 prend la 2. Et la 4 retourne la 11, retourne la 12, et c'est tout. Non, c'est pas tout, pardon. De l'autre côté, ça prend la 10.
Là, c'est un carnage. C'est un carnage. La 49 qui prend la 50, et c'est tout.
Ah non, c'est pas tout. Oh là là.
Ah, si, oui, la 55, effectivement. La 54, également. Et la 56, et là par contre je crois que c'est tout.
Toujours pas. Et la 57,
ah oui, 57
et la 58,
effectivement.
Et la 52, et la 53.
Ah bah oui, tu oublies toujours les... D'accord, bon ben je dirais pas que j'ai sauvé l'honneur, mais bon. C'est même pas ça, passe, voilà.
Bon, moi je continue de détricoter tes pauvres pions qui s'étaient trop avancés. La 7 prend la 6, prend la 5, retourne la 13, qui retourne la 20, qui retourne la 21, qui prend la 14, qui prend la 9, qui prend la 8.
Voilà, bon.
Et les trois dernières sont pour toi.
Oui, voilà, avec là, la 46, qui prend la 40. La 47 qui prend la 48.
Bon, voilà. je t'ai eu à l'usure, je t'ai, je t'ai non, fatigué non, par toutes ces interviews.
Tu penses que toi aussi, tu c'est vrai que j'ai plus parlé que toi, c'est un peu normal quand même. Mais
Cette seconde mi-temps s'achève donc sur une assez large victoire. Je n'aurais pas la cruauté de compter.
Voilà.
Quand on arrive à dominer le centre dès le début, l'adversaire a beaucoup de mal à récupérer les morceaux.
C'est peut-être une limite de ce jeu, c'est très impacté par le choix arbitraire du début, qui est de savoir qui commence.
C'est pour ça qu'on joue en demi-temps. Troisième section, les règles. Dans cette troisième section consacrée aux règles, David Latapie a décidé de nous parler de certains de ses principes de vie qui sont, si j'ai bien noté, me connaître, être heureux et répandre la bonne parole.
Oui, alors effectivement, moi je fais partie de ce que l'on appelle en philosophie. D'abord, je suis utilitariste, mais je ne vais pas parler de l'utilitarisme parce que ça fait encore très beaucoup de questions. Je suis eudaimonien. Les eudaimoniens considèrent qu'effectivement le but suprême de la vie, c'est le bonheur. C'est pas exactement la même chose que l'hédonisme ou l'épicurianisme. C'est une conception que effectivement l'être humain a pour objectif fondamental d'être heureux. Être heureux, qui est un but très égoïste, quelque part, hein, peut se faire de manière très différente, ça dépend des gens. Pour certains, le bonheur, c'est effectivement juste prendre du bon temps, vivre au jour le jour, voilà. D'autres atteindront le bonheur en sachant qu'ils ont laissé quelque chose sur Terre, qu'ils ont laissé une construction, une œuvre qui profitera à l'humanité.
Qu'ils ont été utiles à quelque chose.
Voilà, qui ont été utiles à quelque chose. Dans les deux cas, ces personnes cherchent le bonheur. La personne qui cherche à laisser quelque chose sur Terre, fondamentalement, elle cherche son bonheur, son accomplissement intérieur, être en accord avec ses valeurs. Enfin, c'est ça. Le bonheur, c'est être en accord avec ses valeurs internes. Et moi, je cherche à être heureux en étant d'accord avec mes valeurs internes, ce qui demande à connaître ses valeurs internes, ce qui n'est pas du tout évident. Moi, quand il a fallu une vingtaine d'années pour les trouver, mes valeurs internes. Et c'est pour ça que je suis finalement assez stable maintenant dans mes paroles et que j'arrive à encaisser des trucs que je n'aurais pas pu encaisser par le passé. Et que des fois, les gens me disent, mais on ne peut rien te dire, ta réponse à tout, oui, parce que déjà, j'ai réfléchi derrière. Et si j'ai réfléchi derrière, si ça ne me déstabilise pas, c'est parce que justement, j'ai enquêté j'ai mené ce travail d'introspection et de réflexion. Vraiment, qui est très largement loin d'être terminé, puisque j'ai toujours de nouvelles idées et que je n'arrive pas à parler simplement. Alors ça, c'est mon gros problème. Vous le verrez, je ne sais pas faire des phrases simples. En dehors de cette volonté de me connaître, donc j'ai parlé pas mal dans l'interview précédente, pour moi aussi, il est très important de faire... propager mes idées, c'est la volonté d'être compris, c'est quelque chose qui me poursuit depuis le début. Vu que j'ai toujours été dans un environnement où j'étais incompris, jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a quelques années, j'étais incompris parce que j'étais surdoué, qu'ils ne se savaient pas, je ne parle pas de tout ça, j'en ai construit une réelle soif d'être compris par les autres, que les gens comprennent vraiment ce que je veux dire, et donc j'en ai bien conscience, ça veut dire que moi-même, il faut que je sois intelligible. Que je dise les choses de bien, parce que les autres ils peuvent bien comprendre si moi je fais l'effort de bien construire les choses. Pour question que je n'arrive toujours pas à résoudre, je ne suis pas capable de faire des phrases courtes. Quand je parle, je déblatère pendant des heures, alors que ça pourrait être dit de manière très très simple. Une chose qui me rassure, c'est qu'apparemment, c'est le cas de beaucoup de gens, quand ils ont une idée qui est kilométrique, et la personne en face qui a compris, elle va pouvoir résumer la même idée en 5 mots. Tu dis, waouh, comment t'as fait? J'ai remarqué que c'est souvent ça, dans mon sens comme dans l'autre, hein, cas, dans mon droit. Quelque part, ça me rassure. Je dis que c'est justement par la dialectique, par la discussion avec les autres, qu'on va arriver à dire simplement ce que l'on a. Et c'est d'où l'important justement d'avoir l'autre, parce que sans l'autre, on n'y arriverait pas. Donc voilà, j'essaie de communiquer mes idées, ce qui nécessite d'abord que mes idées soient suffisamment carrées pour pouvoir les retranscrire en quelques phrases choc, en quelques formules, que je n'ose d'entendre sur un papier, que j'essaie de retranscrire. Je fais beaucoup de maximes, parce que je trouve que les maximes me permettent de synthétiser en quelques mots des réflexions kilométriques que j'ai derrière.
Par exemple
absence de preuve n'est preuve d'absence, même si ça c'est pas moi, c'est la science en général. La concision, ça prend du temps, surtout l'impact, c'est faire quelque chose de très court, ça demande énormément de travail préparatoire, et on ne s'en rend pas compte, on croit que quand c'est simple à dire, c'est simple à faire, mais c'est tout le contraire. Ce qui est simple à dire a été très long à préparer par le passé. La concision, ça prend du temps. Ensuite, ce que j'appelle les invariants, donc comme l'épreuve du temps, comme la nomination des idées, le fait de mettre un mot sur des idées. Et là, vous voyez, c'est encore des concepts que j'ai pas réussi à formuler un maxime. Une liste, en gros, de maximes que j'ai écrit, je ne sais pas, je pourrais la mettre en copie à la limite, parce que je ne l'ai plus en tête. Sur le coup, ça ne vient pas. Mais plusieurs qui m'ont permis comme ça de synthétiser ma pensée.
Tu parles de répondre à la bonne parole.
Bonne parole.
Ah,
tout à fait. Parce que la bonne parole.
J'allais le demander.
La bonne parole, je ne sais pas ce que c'est ma bonne parole. Vous savez, j'avais lu un designer de mode, c'est quelqu'un qui impose sa vision du monde aux autres. Il n'y a pas une vision du monde qui va. Il y a quelqu'un qui a décidé de manière quelque part égoïste, d'imposer sa vision des choses. Alors on peut dire que c'est démagogique, que c'est dictatorial, mais c'est la vérité, tout simplement. Rien n'est totalement neutre à ce niveau-là. Et oui, donc moi j'ai quelque part, et je suis prêt à encaisser toutes les accusations que j'aurai derrière, je compte imposer ma vision du monde aux autres. Enfin, l'imposer avec l'accord conscient. C'est pas imposer de manière brutale, c'est je vais donner mes idées, les répéter, les formuler pour que les gens soient séduits et les acquièrent.
Tu es donc convaincu d'avoir raison.
C'est une bonne question, effectivement. J'en suis pas convaincu, mais j'ai pas trouvé mieux.
Et quand les gens qui sont en face de toi n'en sont pas convaincus non plus,
c'est là que ça devient intéressant. Ou pas, ça dépend. Si la personne se contente de dire « je suis pas d'accord, t'es un con, et va te faire voir », c'est pas très constructif, ça m'intéresse pas. Ça crache de la haine, ou de l'incompréhension, je sais pas lequel est le pire d'ailleurs. Par contre, quand la personne arrive à me contre-argumenter, là c'est intéressant. Parce qu'il m'arrive très souvent d'ailleurs de changer d'avis.
Ah.
Très très souvent de changer d'avis. Mais, il faut que derrière il y ait des arguments. Attention, en même temps, je reconnais tout à fait que, pour moi c'est très important, la majorité de ce que l'on fait dans la vie n'est pas gouvernée par la raison, mais gouvernée par le cœur. Et je suis quelqu'un qui parle beaucoup de science, qui dit ça. La majorité des choses sont des questions de foi. Ensuite, on a une foi et on va trouver des arguments pour alimenter notre foi, pas le contraire. Quand on est persuadé que les extraterrestres existent, on te trouvera 36 arguments pour dire que les extraterrestres existent. Ce sont des arguments qui se tiendront tout à fait, qui seront cohérents, je peux en fournir quelques-uns à tout qui s'il le fallait, mais à la base, et c'est une hypocrisie de penser le contraire, c'est qu'on a envie qu'ils existent, alors on va développer un argumentaire en conséquence. C'est pas le contraire. Ou alors, peut-être que je ne suis pas du tout assez scientifique, mais je pense pas. Je crois que même côté scientifique, d'abord on a une foi, et ensuite on va trouver les arguments pour prouver qu'on a raison.
Et que penses-tu du doute?
C'est quelque chose d'éminemment personnel qui peut être salutaire et destructeur à la fois. Salutaire, parce d'une part, ça t'oblige à te former un argumentaire de meilleure qualité, qui résiste au coup de boutoir de ton propre doute, justement. Salutaire parce qu'il te permet de rester humble, que tu ne sais pas forcément tout, que tu ne sais peut-être pas grand-chose, que ce que tu sais peut être remis en cause par autrui, également. Et destructeur parce que quand tu te mets à trop douter, tu ne fais plus rien. Tu te lamentes sur toi, tu n'avances pas, tu restes dans l'immobilisme et tu n'apportes rien. Tu n'apportes rien ni à toi ni aux autres. Donc c'est une arme à double tranchant.
Est-ce qu'on ne peut pas construire sur le peu dont on est sûr, tout en gardant des doutes sur beaucoup d'autres choses?
C'est l'une des choses que mon patron m'a appris, la stratégie des petits pas. Moi, j'avais justement tendance, je sais que c'est le cas de beaucoup de zèbres, qui sont souvent perfectionnistes, c'est que si c'est pas nickel, on le fait pas, parce que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup que je... Si je présente pas un truc parfait, vaut mieux que je ferme ma gueule, parce que sinon ça sert à rien. On est souvent comme ça. Il m'a dit, stratégie des petits pas, c'est peut-être pas super, mais c'est déjà mieux que rien. Et puis, sur cette imperfection, quelqu'un va ajouter quelque chose qui sera un peu moins parfait, et petit à petit, l'autre fait son nid. C'est d'ailleurs la démarche de Wikipédia. J'ai eu l'occasion de créer, d'être l'initiateur de plusieurs articles de Wikipédia. Ce qu'il y a de formidable dans Wikipédia, donc l'encyclopédie collaborative, c'est que vous pouvez voir au fur et à mesure, grâce à un outil d'historique, les évolutions, itération par itération, des articles dont vous pouvez voir et vous comment vous pouvez voir tout le film de l'amélioration de l'article, et comme ça, si vous faites passer quelque chose, vous pouvez voir comment un petit article de 3 lignes, moi j'ai fait l'article biomécatronique par exemple, de 3 lignes se transforme en gros article de 5 pages avec des références à tous les sens, déjà sans piéger dessus, et cette volonté de travailler ensemble qu'on appelle le wiki love est véritablement euphorisante. Dit ouais, j'ai grâce à moi, il y a quelque chose qui s'est construit. J'ai fait quelque chose, c'est accompli. Et non seulement ça s'est fait, mais j'ai pas été le seul. D'autres personnes ont trouvé que ce que je faisais était suffisamment intéressant pour le faire avec moi. On a construit ensemble. Et ça, c'est vraiment un sentiment totalement euphorisant.
Je te parlais du doute. Une chose qu'on constate souvent sur Wikipédia, c'est qu'on a affirmé des choses et au fil des mois, ces choses deviennent relativisées. On exige des références pour les choses les plus élémentaires et on finit par ne plus être sûr de grand-chose. Ça ne t'énerve pas?
Je l'ai intégré. Alors, aussi, un autre des invariants que j'ai, c'est que quand il y a deux extrêmes, la conclusion, voire la réalité, va se situer entre ces deux extrêmes. Alors, c'est l'air tout comme ce que je dis, hein, c'est parce que je pense que les humains, en général, captent toutes les extrémités d'une problématique. Ils n'arrivent pas, et j'ai accepté le fait que mon point de vue sera jamais totalement bon, intrinsèquement, parce qu'il faudrait que j'aie de la chance folle de tomber sur l'exactitude, sur la vérité exacte. Tout simplement, de manière purement pragmatique, un article de Wikipédia est créé, au début, il y a des gens qui ajoutent des informations, de plus en plus, pour voir apparaître des bandeaux, manque de citations, discours promotionnels, références sautées. Et je me rends compte que, finalement, il y en a quelques-unes qui restent, il y a quelques choses qui sont corrigées, d'autres qui ne sont pas corrigées. Mais au final, l'article est là, les gens le lisent, très important, il s'est pas assez fait, ils ne prennent pas forcément assez de recul dessus, mais au final, c'est un chantier permanent. Et c'est ça qui est super, c'est que c'est justement parce que c'est pas parce que c'est un chantier permanent que c'est pas intéressant. Vous construisez une maison tant que vous n'avez pas terminé le dernier, la dernière tuile de la maison n'est pas habitable. Enfin, pas trop. Pas sur Wikipédia ou sur d'autres chantiers permanents où c'est habitable. Alors, je ne peux pas m'empêcher de citer Éric Raymond, un chantre du logiciel libre, qui a écrit un ouvrage fondateur il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, qui s'appelle « La cathédrale et le bazar ». La cathédrale et le bazar, pour résumer, il y a deux modèles de construction de projets, en informatique, mais en fait pour tout le reste également. L'un, c'est la cathédrale, on va faire un truc nickel, à la perfection, qui marchera beau, une grande œuvre, un accomplissement de la vie ou de la bazar. Et t'as le bazar. Alors le bazar, c'est pas vraiment sexy, ça va dans tous les sens, tu sais pas trop qui fait quoi. Mais par contre, c'est extrêmement vivant. La cathédrale, quand même, quelque chose d'assez mort. On a presque peur d'y toucher, on n'ose pas y toucher tellement, c'est par respect pour ce qu'il en fait, et puis il faut du temps avant qu'elle soit construite en 300 ans, une cathédrale pour certains. Le bazar, ça se fait tout seul, chacun vient avec ce qu'il a, il fait un petit peu de ceci, un petit peu de cela, c'est pas très beau, mais au final ça marche tout de suite, et dès qu'il y a un problème, ça se modifie immédiatement. Il y a une réactivité incommensurable, et effectivement toute la vertu esthétique d'une vision de la chose parfaite n'est pas là, mais par contre, il y a toute la vertu de la chose qui marche, et qui l'a effectivement. Et dans un monde extrêmement mouvant comme le monde actuel, au monde du XXIe siècle, la place est pour les bazars.
Je suis content d'avoir entendu parler d'Éric Raymond, qui a été effectivement un gourou du logiciel libre il y a assez longtemps, mentionnant au passage que... Actuellement, les militants du logiciel libre sont plutôt gênés par Éric Raymond,
oui,
parce que il est par ailleurs un militant du libre port des armes. Il a tendance à considérer que la National Rifle Association sont de dangereux gauchistes. Et quand on l'entend parler de liberté, il parle toujours simultanément de la liberté du logiciel et de la liberté de porter les armes. Et ça inquiète un peu. J'aurais tendance à dire qu'Éric Raymond est un de ces barjots qui réfléchissent beaucoup. Il est possible que ce soit un peu ce qu'on puisse dire de toi, David.
Si, on le dira sûrement de moi d'ailleurs.
Je ne suis pas sûr si nos auditeurs et surtout moi-même sommes totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, mais assurément ça fait beaucoup réfléchir. Je te remercie infiniment de m'avoir accordé autant de temps.
C'est moi qui te remercie.
C'est sur ces mots que nous allons terminer la troisième section consacrée aux règles et par la même tout cet entretien. Tu veux peut-être ajouter des adresses de sites web?
Bon, mon site web, david.latapi.name, donc L-A-T-A-P-I-E, david.latapi.name, mon blog. Le site de mon maison d'édition associative, scriptarium.fr, donc scriptarium, S-C-R-I-P-T-A-R-I-U-M.fr. Et bien sûr, le site de l'association française transhumaniste, qui est transhumaniste au pluriel.com.
Donc au sujet du transhumanisme, et avant de laisser David reprendre la parole, je vous signale, chers auditeurs, que l'interview que vous êtes en train d'entendre n'est pas le seul matériel que notre hôte nous permet de publier, et sur le site triancé.com, rubrique l'archipel des slidecasts, vous pouvez également écouter une mini-conférence dans laquelle David Latapi parle d'énormément de choses, mais toutes connectées au transhumanisme.
Voilà, j'espère d'ici quelques mois, années, je ne sais pas trop, arriver à avoir suffisamment calmé les idées dans ma tête pour coucher tout ceci dans un livre sur ce qui nous attend. Souhaitez-moi du bon courage parce que vu ma manière de partir dans tous les sens, ça va être difficile de structurer ça en livre, mais bon, ce sera un défi.
Eh bien, peut-être que la structuration de cette émission sera l'ébauche de plans futurs. Il me reste à te demander d'accomplir la petite formalité juridique.
Cette interview est librement diffusable sous la licence Creative Commons CC BY-SA, c'est-à-dire sans autre obligation que celle de nous attribuer à Jean-Luc Anseit, à moi-même, David Latapie, la paternité de nos propos respectifs. Les mêmes droits de diffusion libre sont reconnus à tout le matériel que reprendrait ces propos en totalité ou en partie.
Merci beaucoup. Cette interview est un élément de la série L'Archipel des Portraits, diffusée sur le site triancet.com. Triancet s'écrit Trian comme dans triangle, et C-E-Y. La musique des jingles et du générique est extraite de la suite pour Lutte en mi mineur BWV 1996 de Jean-Sébastien Bach, diffusée par le MIT et Wikimedia Commons, et aussi en CC BY-SA. A bientôt.